Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans l'émission Les Plantes Vagabondes sur Radio G 101.5 FM. Une émission ensemencée et cultivée par Le Plantis, une association de coworking rural, un lieu dynamique, collaboratif et gourmand, situé à Écuyer, au nord de l'agglomération angevine. N'hésitez pas à venir découvrir Le Plantis et nous rencontrer. Je suis Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue. Je suis accompagnée de Claudie, qui est ingénieur paysagiste conseil et qui se charge aujourd'hui du tutorage de l'émission. Chaque mois, nous vous proposons une balade en nature à la rencontre des plantes sauvages. Au fil des saisons, nous vous invitons à vous familiariser avec elles à travers leurs légendes, leur histoire, leur mode de vie et leurs usages. N'hésitez pas à prendre le temps de faire connaissance avec les plantes lors de vos promenades et à explorer leurs saveurs et leurs bienfaits. Comme d'habitude, nous retrouverons la chronique « Le bonheur est dans les simples ». Aujourd'hui, Véronique nous partage un très joli conte de sa création. Le printemps est une saison de renouveau et de beauté, où la nature se réveille après le long sommeil de l'hiver. Parmi les nombreuses merveilles que cette saison nous offre, nous avons le privilège en Anjou d'admirer la fritillaire qui se distingue par son élégance et sa délicatesse. Cette fleur, souvent appelée fritillaire pintade en raison de ses motifs en damier, mais aussi gogane dans notre région, émerge timidement du sol, annonçant l'arrivée des jours plus chauds et ensoleillés. Les fritillaires, avec leurs clochettes pendantes et leurs couleurs variées, apportent une touche de grâce aux prairies. Leur floraison est un spectacle éphémère mais captivant, rappelant la fragilité et la beauté de la vie. Elles symbolisent la renaissance et l'espoir, incarnant l'essence même du printemps. Alors que les jours rallongent et que la nature se pare de nouvelles couleurs, la fritillaire nous invite à savourer chaque instant de cette saison magique. Elle nous rappelle que même après les périodes les plus sombres, la vie trouve toujours un moyen de renaître et de s'épanouir. Notre émission d'aujourd'hui est dédiée à une autre petite merveille de la nature, la campanule. Une plante que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être sans vraiment y prêter attention. Aujourd'hui, nous allons explorer son milieu de vie, sa forme unique, ainsi que ses usages médicinaux et culinaires. Mais pour commencer, je souhaite vous partager ce petit poème de Marie Doguet. Je suis le vent qui roule et je m'entends bruire. Parmi le vol agile et bleu des libellules, au visage des eaux, j'ai vu mes yeux reluire et mon sang a teinté les roses campanules, pendant que de la sève en moi se coagule. Je parle avec l'écho et vogue à l'unisson d'étrennantes rumeurs que le bois dissimule et je m'épanouis aux primes floraisons. La campanule est une plante appartenant à la famille des campanulacées. Elle est appréciée pour ses fleurs en forme de clochette qui lui ont valu son nom dérivé du latin campanula signifiant petite cloche. C'est une plante vivace, bisannuelle ou annuelle selon l'espèce. On la trouve dans des régions tempérées de l'hémisphère nord, en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord. Elle se plaît dans les prés, les prairies et même dans les forêts claires. Elle préfère les sols bien drainés et riches en nutriments, souvent exposés au soleil ou à mi-ombre. En tant que plante vivace, elle revient chaque année, du printemps à la fin de l'été. Elle apporte une touche de couleur à nos paysages naturels. Les feuilles sont généralement alternées et dentées, parfois lobées ou ovales, et sont le plus souvent vert foncé. Ces fleurs sont en forme de clochettes pendantes ou dressées, parfois étoilées. Elles sont solitaires, en grappes ou en panicules. Les abeilles et les papillons les apprécient beaucoup. Les fleurs peuvent être de différentes couleurs, allant du bleu au violet, et certaines présentent des nuances blanches ou roses. La tige de la campanule est fine et dressée, parfois rampante chez certaines espèces. De hauteur variable, de quelques centimètres à plus d'un mètre pour les grandes campanules. Le fruit est une capsule contenant de nombreuses petites graines qui sont dispersées par le vent ou la pluie. La campanule est très résistante au froid, jusqu'à moins 20 degrés pour certaines. La campanule est une plante délicate et élégante, très appréciée pour son aspect champêtre et sa floraison généreuse. La beauté de la campanule ne laisse pas indifférent et elle est souvent utilisée dans les jardins pour apporter une touche de charme rustique. La campanule est souvent associée à divers mythes et légendes en raison de sa beauté et de sa forme distinctive en cloche. Dans les traditions celtiques, la campanule est souvent associée au monde des fées. On disait que ces petites fleurs en forme de cloche servaient d'instruments musicaux aux fées qui les faisaient tinter pour appeler leurs semblables. Certains croyaient que ceux qui entendaient ces tintements étaient invités à entrer dans le royaume des fées, mais qu'ils risquaient de ne jamais en revenir. En Écosse et en Irlande, la campanule était parfois appelée « Dead Man's Bells », cloche de l'homme mort. On croyait que quiconque cueillait ces fleurs attirait la malchance, voire la mort. Dans certaines régions, elles étaient aussi liées aux esprits et aux âmes errantes. Dans certaines cultures, la campanule est considérée comme un symbole d'amour et de fidélité. On raconte que si un amoureux offrait des campanules à sa bien-aimée, cela signifiait qu'il lui était dévoué et qu'il aspirait à une relation durable. Traditionnellement, certaines espèces de campanules étaient utilisées dans la médecine populaire pour leurs propriétés apaisantes. On croyait que la consommation de décoction de campanules pouvait aider à soulager divers maux. Dans la poésie romantique, la campanule est souvent utilisée comme métaphore de la délicatesse et de la beauté éphémère. Les poètes l'ont souvent décrite comme une fleur qui évoque la mélancolie et la nostalgie. Ces récits et symboles varient selon les cultures et les traditions, mais ils témoignent de la place particulière que la campanule occupe dans le cœur des gens dans leur imagination. Pour cette émission, Claudie est allée rencontrer Julien Gouy, cofondateur de la société Novaflore basée à Champigny. Cette entreprise est spécialisée en écologie urbaine et en mélange de prairies fleuries. Voici l'interview.
Bonjour, aujourd'hui je suis en déplacement à Champigny, qui fait partie des Hauts-d'Anjou, à la rencontre de l'entreprise Novaflore, dont le cofondateur Julien Gouy a accepté de m'accueillir. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu comment est née cette entreprise qui produit, si j'ai bien compris, qui a créé son activité autour des mélanges de prairies fleuries?
Oui, tout à fait. Alors, c'est venu d'une idée un petit peu saugrenue au tout départ. Donc, en 2003, avec mon frère, l'idée de proposer en fait aux collectivités, aux paysagistes, des solutions de fleurissement à base de graines, associées entre elles, pour reconstituer des prairies fleuries, donc un effet prairie fleurie, et faire en sorte que les collectivités puissent aménager les extérieurs de ville, les grandes dépendances vertes, toutes ces zones qui étaient un peu difficilement aménageables et sur lesquelles on avait du mal à apporter de la couleur et puis un peu de gaieté, juste en semant des graines et en reproduisant des prairies très diversifiées à base de coquelicots, de bleuets, etc. Donc vraiment une stratégie d'embellissement, et c'était l'idée de départ, et ça se résumait à peu près à ça. Voilà. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte que c'était des produits qui nous permettaient de reproduire aussi d'autres scènes. Et donc, déjà un spectre beaucoup plus large, pour recomposer des prairies, pour recomposer des milieux naturels. Et puis c'est aussi, ça c'est venu aussi avec le temps, le premier maillon un des premiers maillons de la chaîne alimentaire. Et donc on a sonné toutes ces interactions en fait entre les insectes et puis les insectes pollinisateurs et les fleurs, toute cette notion d'étude du pollen, du nectar, qui fait que pour le coup on s'est retrouvé avec un sujet extrêmement vaste et extrêmement intéressant.
D'accord. Et donc cette idée vous est venue parce que c'était une appétence personnelle, j'ai envie de dire, ou si c'est lié plutôt à votre parcours
Ça a été une rencontre avec un produit en fait qui existait mais qui était très peu développé. Et puis la volonté de créer une structure et de promouvoir ces techniques-là qui nous paraissaient extrêmement pertinentes dans un milieu dans lequel on n'y connaissait strictement rien. Au départ, pour être très franc. Alors, on est en marge de l'horticulture, hein, puisqu'on est vraiment que sur le stade de la graine, mais on a bien été obligé d'apprendre déjà à connaître quelques noms, à savoir les repérer sur le terrain, savoir les identifier. À l'époque, il n'y avait pas des logiciels pour les prendre en photo et nous donner le nom latin.
Oui, c'est précieux quand même.
Donc, c'était plus à base de flore, à base des ouvrages un peu des botanistes, hein, pour pouvoir commencer à mettre un nom sur la plante qu'on avait en face de nous. Et puis on a appris le métier comme ça, avec beaucoup de difficultés, puisque les plantes à associer entre elles, c'est extrêmement compliqué. Elles germent pas toutes à la même vitesse, elles ont pas toutes le même nombre de graines par gramme, elles ont pas toutes le même développement, la même emprise au sol, donc ce qu'on appelle le recouvrement. Et donc forcément, les pourcentages sont pas évidents à caler au départ. Donc on a mis quand même quelques temps à avoir des compositions qui tiennent la route. Et puis, la création de notre catalogue et de l'ensemble des mélanges qu'on peut proposer, nous a permis aussi d'avoir un retour d'expérience sur justement ces proportions qu'il faut savoir ajuster. On en a fait un vrai métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait des mélanges spécifiques pour des clients, pour des paysagistes, des collectivités, des agriculteurs, et quasiment d'une feuille blanche on est capable de sortir une composition qui va s'exprimer correctement sur le terrain, qui va atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
En fait, si je comprends bien, c'est vous faites presque du sur-mesure aujourd'hui.
De plus en plus, ouais. Mais c'est. Alors, on a des produits qui sont au catalogue, c'est une sorte de vitrine. C'est pour expliquer aux gens, voilà, ces compositions-là, elles sont calées, elles sont fonctionnelles, elles peuvent vous répondre à des besoins de fleurissement. Donc ça se passe sur l'été. Ça dure une saison. C'est éphémère. C'est juste fait pour l'effet waouh et que ce soit joli. Vous avez ensuite des produits où on va y associer des annuels, des bisannuels et des vivaces. Donc là, on va aller chercher un peu de pérennité. En général, on a des prairies fleuries qui se tiennent bien sur 2 ans. On va considérer que c'est déjà une bonne durée. Et puis, d'autres projets, d'autres travaux sur lesquels on fait de la renaturation, on fait de la réinsertion d'espèces sauvages. Ça peut être pour des grosses sociétés qui doivent faire de la compensation écologique, qui doivent intervenir en disant bon ok, nous on va intervenir sur ce milieu-là, mais de l'autre côté on va reconstituer des milieux naturels. Et pour le coup, on travaille avec des espèces endémiques, des espèces sauvages. Et là, on va plutôt s'appuyer sur un domaine qui s'appelle la phytosociologie. On va reproduire des milieux naturels, des ensembles, des populations végétales qui vivent ensemble. En fonction de critères assez simples, mais que sont, ça va être l'accès à la lumière. Donc, est-ce qu'il y en a normalement, pas normalement, c'est une zone ombrée ou pas. On va avoir le pH du sol, on va avoir le taux d'humidité. On va prendre tous ces critères qui font que, normalement, dans tel ou tel milieu, ces espèces-là vont vivre ensemble, etc.
D'accord. Et vous, comment vous procédez pour réaliser ces mélanges? Donc, vous avez des endroits où, en fait, quelque part, vous cultivez les semences, vous faites les récolter vous-même?
Alors, on a deux méthodes de fonctionnement. Soit on le fait par nous-mêmes, c'est-à-dire que on va collecter dans des milieux naturels, on ressème ces espèces pour les multiplier. Et on les récolte et on augmente en fait le lot disponible sur ces collectes. Donc ça, c'est vraiment les projets les plus poussés, parce qu'on cherche à avoir en plus une zone géographique dans laquelle on vient collecter les espèces et on les remet à disposition en quelque sorte, dans la même zone. Et puis ensuite on a des projets qui sont parfois qui nécessitent pas spécifiquement toute cette traçabilité. On peut s'appuyer sur ces espèces-là et elles sont reproposées à d'autres clients dans d'autres secteurs géographiques. On a aussi des partenaires qui produisent pour nous parce qu'on va avoir des besoins en plus grande quantité et sur des projets qui viennent d'arriver. Donc pour le coup, on a tout un réseau en fait de producteurs avec qui on fonctionne pour pouvoir ensuite mélanger toutes ces espèces entre elles et remettre à disposition le mélange final pour le client.
D'accord. Donc oui, donc ça vous fait quand même pas mal, genre, je dirais, de métiers au sein de votre entreprise.
Parce que... Ça nous fait pas mal de métiers, d'autant que ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire en sorte que systématiquement, il y ait une contribution pour les insectes pollinisateurs. C'est-à-dire que depuis 4 ans, c'est presque, si ça ne correspond pas à ce critère-là, j'ai presque plus envie de le faire. Donc, si on profite pas de cette opération où on va revégétaliser, on va réintroduire des végétaux, mais qu'il n'y a pas de contribution pour les insectes pollinisateurs, j'estime qu'on passe à côté d'une opportunité, d'une chance, de leur apporter soit une zone de gîte, de refuge, soit une zone d'alimentation spécifique. On fait en sorte de pouvoir cibler les fleurs en fonction soit des insectes qu'on cherche à attirer. Donc ça, c'est très bien pour des professions particulières. En plus, pour les auxiliaires, par exemple, on arrive à réguler des populations de pucerons de manière naturelle. Et puis, pour les apiculteurs, on est capable de fournir de l'alimentation en densité, en quantité et à des périodes vraiment très spécifiques. Donc en fait, on a poussé toute cette expertise le plus loin possible, de sorte à ce que on ait systématiquement une contribution pour les insectes pollinisateurs. Donc on travaille la strate herbacée, certes, mais si elle peut être jolie, si elle peut être utile et qu'en plus on a validé techniquement et scientifiquement que il y aura une alimentation, il y aura une contribution, on trouve qu'on aura encore mieux fait notre job, quoi. C'est-à-dire qu'on aura saisi cette opportunité. Donc on demande aux collectivités de dire, par exemple, s'il n'y a pas de piétinement, si les gens vont pas marcher dessus, etc., on peut toujours venir mettre, alors certes, des monocotylédones, des graminées, mais venir y ajouter un thym, venir y ajouter une espèce qui va être mellifère, de sorte à ce que si elle pousse et qu'elle se développe normalement, au moins elle pourra servir d'alimentation pour les insectes qui sont en présence.
D'accord. Oui, donc elles peuvent venir aussi en complément d'une flore spontanée qui pourrait émerger.
Oui, tout à fait. Parfois, c'est juste faire accepter à la population que on désherbe plus. Donc il y a de la végétation spontanée. On vient y associer quelques espèces qui ont un caractère un petit peu plus ornementales, et d'autres qui vont avoir une réelle contribution sur l'alimentation. Donc on a des fleurs sauvages qui sont très jolies, les campanules qui sont très chouettes.
Puisque nous parlons effectivement des campanules, donc elles ont quelle plus-value elles ont dans vos...
Elles ont toutes une contribution. Elles peuvent être adaptées à un milieu, donc on va les retrouver par exemple dans la région. On les retrouve souvent sur les talus un peu ensoleillés, à côté de marguerites. Et à côté d'autres espèces qui viennent se développer, mais il y en a qui vont avoir des relations vraiment spécifiques. Donc on a des gens qui les étudient du mois d'avril au mois de septembre, qui vont en milieu naturel, qui vont dans les basses vallées angevines, qui vont dans tous les secteurs où on a encore des espaces qui sont un peu préservés, justement pour compter, dénombrer et identifier les relations qu'il peut y avoir, donc savoir exactement quel insecte fréquente quelle plante, et ça nous permet ensuite derrière de pouvoir mettre ses connaissances à disposition de clients qui cherchent à avoir cet insecte-là au sein de sa culture, parce qu'il va y avoir un service écologique qu'il va rendre. On essaie de croiser toutes ces données, donc on est en train de constituer une très très grosse base de données. Là, je crois qu'on est à plus de 500 000 données d'interaction faune-flore, qui nous permet, selon la clé d'entrée l'insecte ou la clé d'entrée fleur, de dire... sur telle fleur, on voit tel type d'insecte. Donc, si vous cherchez, attirer des bourdons pour la production de tomates, là, celle-là, elle n'attire pas de bourdons. Et d'un autre côté, dire pour tel insecte, là, par contre, on sait qu'on l'a vu X fois sur ces 10 fleurs-là qui sont les plus appétantes ou les plus attractives, les plus nourricières. Et donc, on va forcément avoir des mélanges qui sont plus performants et qui vont donner plus satisfaction pour atteindre ces objectifs.
D'accord. Eh ben, en tout cas, c'est intéressant parce que ça permet de voir en même temps quel type de public vous adressez, parce qu'il n'y a pas seulement les collectivités, il y a aussi les agriculteurs. Donc, ça peut être de renouer le dialogue en fait entre l'agriculture et la nature, j'ai envie de dire. Donc,
et je trouve ça intéressant aussi.
Et puis le particulier, bien entendu.
Parce que très clairement, chacun avec un mètre carré, je crois qu'on doit avoir 13 millions de jardins en France, 13 millions de mètres carrés, si on fait juste un mètre carré de fleurs mellifères. C'est 13 millions de mètres carrés de fleurs mellifères en plus pour les insectes pollinisateurs. Donc, chacun peut avoir une contribution. À partir du moment où on a un bout de sol à nu, on peut se poser la question de savoir si on peut mettre quelque chose qui est beau, qui va nous rendre satisfaction à nous, mais qui va aussi avoir une utilité pour la biodiversité.
Ah bah écoutez, merci beaucoup pour cette interview qui va sans doute passionner nos auditeurs.
Avec grand plaisir.
Pour notre pause musicale, nous écoutons maintenant Printemps éternel de Flo de la Vega.
S'il est un monde tout autour, oui tout autour qui nous entend, ouvrons nos rêves de toujours et pour toujours nos rêves d'enfant. Je rêve qu'un jour, un jour, tout autour de moi s'éveille un nouveau monde d'argent qu'on ne connaît pas. Moi je rêve qu'un jour, un jour, tout au fond de toi s'éveille tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Il est un monde autour qui nous attend. Où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend. Où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Oui, une étoile pour nous guider. Que sous nos yeux se dévoile le monde dont on rêvait. Moi je rêve qu'un jour, un jour, tout autour de moi s'éveille un nouveau monde d'argent qu'on ne connaît pas. Moi je rêve que pour toujours, tout au fond de toi s'éveille tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois. Tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois. Il est un monde autour qui nous attend. Où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend. Où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Il est un monde. J'ai tant rêvé autour de moi, là tout changé. J'ai tant rêvé tout en moi, tout y était. J'ai tant rêvé autour de moi, là tout changé. J'ai tant rêvé tout en moi, tout y était. J'ai tant rêvé autour de moi, là tout changé. J'ai tant rêvé tout en moi, tout y était. J'ai tant rêvé autour de moi, là tout changé. J'ai tant de rêves en moi. Il est un monde autour qui nous attend. Où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend. Où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Il est un monde autour qui nous attend. Il est un monde dont on ne reviendra jamais.
Vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM et notre émission d'aujourd'hui parle de la campanule. La campanule ne se limite pas à son esthétique. Elle possède également des propriétés médicinales intéressantes. En phytothérapie, certaines espèces de campanules sont utilisées pour leurs vertus calmantes et anti-inflammatoires. Par exemple, les infusions de fleurs peuvent aider à soulager les maux de gorge ou les irritations. Certaines traditions populaires lui attribuent également des propriétés diurétiques. Nous allons maintenant écouter la chronique « Le bonheur est dans les simples ». Aujourd'hui, Véronique nous enchante avec un très joli conte sur la campanule.
Le chant secret de la campanule. Il était une fois, au cœur d'un jardin oublié, une petite plante timide aux fleurs en forme de clochette, la campanule. Fine et discrète, elle poussait entre les hautes herbes et les pierres moussues, presque invisibles aux yeux des passants trop pressés. Pourtant, elle cachait un secret ancien, transmis de pétale en pétale depuis la nuit des temps. Dans le royaume des fleurs, chaque plante avait une mission. Le tournesol apportait le soleil au cœur sombre. Le coquelicot guérissait les âmes en peine. Quant à la campanule, elle possédait le pouvoir de souvenirs doux. Un enchantement oublié que seule la nature se rappelait. La nuit, lorsque la lune se levait et que la rosée scintillait comme des diamants sur les feuilles, les campanules s'animaient. Elles tintaient doucement, chacune émettant une note si pure que même les étoiles se penchaient pour écouter. Ce chant féerique avait le don de faire remonter à la surface les souvenirs heureux, ceux qu'on croyait perdus. Un éclat de rire d'enfant, un parfum d'été, la main d'un être cher. Mais voilà, dans le monde des humains, plus personne ne prenait le temps d'écouter. Jusqu'au jour où une petite fille prénommée Lina, curieuse et rêveuse, s'égara dans ce jardin ancien. Elle suivait un papillon bleu quand elle trébucha près d'une bordure fleurie de clochettes violettes. En tombant, son oreille frôla les fleurs et elle entendit une douce mélodie, un éclat de voix, un souvenir d'elle toute petite dans les bras de sa grand-mère en train de rire aux éclats. Touchée par cette magie, Lina décida de revenir chaque jour. Elle chuchotait ses secrets aux campanules, leur racontait ses peines, ses joies, ses rêves. Et les fleurs répondaient en musique. Un matin, le jardin s'éveilla transformé. Les pierres brillèrent, les herbes dansèrent et les campanules, si longtemps silencieuses pour les humains, sonnèrent à l'unisson. La magie avait retrouvé son chemin. Depuis ce jour, on raconte que là où poussent les campanules, les cœurs retrouvent leurs souvenirs les plus tendres, à condition d'écouter en silence et avec l'âme ouverte, comme une fleur.
Sur le plan culinaire, la campanule n'est pas à négliger non plus. Ces fleurs peuvent être consommées crues, ajoutées aux salades pour une touche de couleur et de saveur, ou encore utilisées comme garniture pour les plats. Les jeunes feuilles peuvent être également ajoutées à des soupes ou des plats cuisinés, apportant une fraîcheur naturelle au repas. Nous sommes déjà au terme de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver plein d'informations pratiques, des recettes, des remèdes dans le blog de notre site www.leplanty.fr. Cette émission et les précédentes sont à retrouver en podcast sur la page de l'émission du site de Radio G. Faites-vous plaisir en réécoutant et en partageant nos émissions. C'était Christelle et Claudie sur Radio G 101.5 FM. Prenez soin de vous. Pour la prochaine émission du 16 mai, nous vous emmènerons à la rencontre de l'amarante. À très bientôt et restez à l'écoute pour de nouvelles aventures botaniques. Bye bye !